Chapitre 24 et fin. L'apôtre et le sorcier. La matinée d'août qui se leva cette année-là pour la fête de l'Assomption fut si particulièrement belle que le cœur de tous s'épanouissait dans une plénitude de joie, de bien-être, et que tante Rosalie, du seuil de sa porte devant l'autel de la marine, au moment de se mettre en route pour aller à la messe, lança, en bonjour de première heure, à Louise Pénéguez, qui se rendait aussi à cette messe basse de 6 heures, dite par exception à la chapelle de Notre-Dame du Roc au milieu des eaux, « Il me semble que me voilà rajeunie de 20 ans. » Toute gaillarde de cette remarque, elle poursuivit. « C'est la croix de mission, pour sûr, qui nous vaut tous les bonheurs qui nous arrivent cette année. C'est à cause d'elle que nous pourrons fêter plus dignement la Sainte Vierge. » Partout, autour d'elle, c'est la brume, une brume d'été, une brume de chaleur, brume légère, transparente, laiteuse et opaline, qui effaçait en partie la côte du Léon, la rejetant très loin vers l'horizon, en terre mystérieuse, qui estompait les dures arêtes et les saillants farouches de la presqu'île de Roscanvel, qui couvrait de sa mousseline les profils du fortin de Vauban et de la chapelle gothique, sur l'étroite langue de terre encore amincie par la marée haute. Elle donnait à tout, cette brume, une douceur de pays étrange, de pays un peu fantastique, vu à travers un flottement incertain de tulle, et comme le joli attirant d'un visage de femme aperçu derrière son voile. Le vent, qui soufflait du nord, n'était nullement froid, ayant, avant d'arriver à Camaret, traversé ce fluide et cotonneux brouillard tout tiédi de soleil. La mer, d'un calme merveilleux en son bleu de cobalt très pâle, laiteux par places, n'avait pas un mouton, pas un ressac le long des côtes, et s'étendait, plane, onduleuse, douce, tendre, soumise, sous la capricieuse et effleurante caresse de cette brume. Au fond, derrière ce demi-mystère, lentement la cloche se mit à tinter, appelant les fidèles matineux, et ce tintement venu de la mer, d'un point qu'on ne savait pas, avait quelque chose d'énigmatique et de saisissant. On eût dit une cloche fée, la cloche sous-marine de quelque ville engloutie, sonnant une messe de rêve. « Nous avons encore le temps, » remarqua la veuve. « Voilà seulement le premier coup. » Et, dévoré d'un besoin de bavardage, son livre de messe entre ses mains réunies, la tête agitée sous le capuchon noir de sa mante de deuil, « Il s'en est passé de ces événements dans notre Camaret, que jamais on n'en avait tant vu, n'est-ce pas, tante Rosalie ? » Celle-ci, le visage animé d'une joie débordante, répondit « Oui, certes, beaucoup d'événements, mais nul ne s'en plaindra, vu que c'est pour le contentement de chacun et pour le bien du pays, de notre cher petit pays. » On sentait dans son intonation une fierté, une satisfaction à constater le momentané bonheur du coin de terre qu'elle habitait et auquel elle tenait comme on tient à sa propre chair, à ses muscles et à son corps, et à tout ce qui vous fait un être humain. Son interlocutrice reprenait. « Eh bien, moi, jamais, voyez-vous, jamais je ne me serais attendue à tout cela. Malgré les jaseries qui avaient lieu chez les unes et chez les autres, malgré ce que j'avais vu, je n'en reviens pas de ces deux mariages, et célébrés le même jour encore. En voilà une chose, on n'avait pas eu connaissance de pareille affaire par chez nous depuis longtemps. Quand on pense ainsi deux mariages, pour Hervé Morvan le contremaître, avec notre reine, il y en avait mention à mon idée, on aurait encore quasi pu le prévoir, vu que je me souviens bien, moi, qu'à son retour du service, il était joliment empressé autour de sa fille, à Balanec, et qu'elle ne lui semblait pas trop fâchée de se voir rechercher par lui un bon marin, un vrai parti comme bonne tenue et comme beau garçon, s'il ne la valait pas comme argent. La patronne de l'hôtel de la marine souligna. « Oh, chez nous, tu sais bien, ma fille, ça ne signifie rien, la richesse. C'est pas par argent qu'on s'épouse, mais par goût. » L'autre poursuivait. « Mais c'est ce mariage du Denis le Marec avec la faillite Goalen, on me l'aurait dit que je n'aurais jamais voulu le croire. Maintenant que c'est fait, depuis 8 jours, je n'y suis pas encore habituée. La fille au reboutou, si on pouvait penser, Jésus !» Tante Rosalie sourit finement. « Moi, dès le premier jour, le jour du débarquement de Denis, ici là même, devant nous, par ce temps de brume, mais d'une brume qui tenait plus dur qu'aujourd'hui, je l'aurais prédit. De ce moment, j'ai vu que les vents étaient bien placés pour cela. Oh, on sait que vous avez toujours eu un coin dans le cœur pour cette petite du cap de la chèvre, » insinua la veuve. « Pourquoi pas ? » s'exclama madame d'Orso. Elle avait relevé la tête, la parole plus haute, la taille droite. « C'est moi qui l'ai recueillie, dès le premier jour, sans la connaître encore autrement que des yeux, parce que j'ai bien vu qu'on était en défiance pour elle à Camaret. C'est moi qui l'ai ramenée à son père. N'ai-je donc pas bien fait ? Et ce qui s'est passé aujourd'hui ne me donne-t-il pas raison ? C'est une créature du bon Dieu tout autant qu'une autre, aussi bien que reine Balanec. À l'hôtel où elles se trouvaient toutes deux sur le même rang devant la face du Seigneur, la fille du berger du Cap de la Chèvre, du misérable Reboutou, faisait aussi bonne figure auprès de son mari que notre reine, la fille de l'homme le plus important et le plus riche de Camaret. C'est du même cœur que monsieur le recteur les a unis, et il a appelé aussi ardemment sur l'une que sur l'autre les bénédictions du ciel. Pour la défense de la fille de Nédélec Goalen, elle se montrait en ce moment telle qu'on la connaissait partout, telle qu'elle aimait à se montrer, ardente à la lutte, la fière et respectée doyenne de Camaret, une têtue bretonne, entêtée de charité, de dévouement avec sa grande et robuste foi chrétienne. C'est vrai que les voilà tout raccommodés à cette heure, le Reboutou et notre recteur, même qu'on assure qu'on le verra aujourd'hui à Camaret, à l'occasion de la fête, ce tonton Nédélec, continua la veuve. Pour ça, je ne le crois guère. C'est pas dans les choses possibles. On verra bien d'autres choses, fit doucement madame d'Orso de son air tranquille de mystère. Mais tu sauras qu'il ne faut jamais juger les gens sans les entendre, ma fille. Elle s'interrompit pour désigner la chapelle. Ah, voici le second coup. Il est l'heure de partir. Tandis que la cloche tintait à petits coups plus pressés, comme pour faire hâter le pas aux retardataires, et que les deux femmes cheminaient l'une près de l'autre, toutes deux en pareille mante noire, la veuve pénégaise continuait de se remémorer tout ce qui venait de se passer dans leur pays, d'habitude si calme, si houleux et si remué par les événements depuis quelques mois. Autour d'elle, la brume s'envolait rapidement, et il n'en restait plus trace quand elles atteignirent la longue jetée naturelle qui se détache du Stivel pour enfermer le petit port. C'était déjà le grand calme de la pleine chaleur, comme une poudre d'or et de feu, qui voltigeait dans l'air, formant un mouvant tissu de flammes palpitantes, invisibles entre le ciel, la terre et la mer. Tante Rosalie répéta, enthousiasmée, en pénétrant dans l'ombre douce de la petite chapelle. Un vrai jour de bénédiction, la paix et l'union dans notre cher pays de Camaret, mon rêve réalisé. Ce fut en effet un jour merveilleux où la nature entière sembla se mettre en fête, comme pour consacrer l'œuvre hardiment commencée par tante Rosalie, après avoir été amenée par Denis le Marec et terminée par Pierre Kerbiriou. Cette œuvre, c'était la rentrée publique dans l'Église, la réhabilitation du Reboutou, de cet homme farouchement banni des lieux sanctifiés, excommunié du haut de la chaire, et auquel les presbytères, les églises et les chapelles de toute la presqu'île de Crozon avaient été si longtemps et si inexorablement fermés. Cette fois, le cercle magique, au centre duquel on l'avait enclos et dont, par résignation, par lassitude de la lutte, par philosophie, il n'essayait même plus de s'échapper, était brisé pour toujours, et il en était sorti sous l'égide inviolable de la croix. Quand, à 2 heures, pour se rendre à la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, la procession quitta l'église par la rue qui conduit du bourg au nautique, afin de défiler le long du quai et de joindre le Stivel, le soleil laissait ruisseler sur tout le pays une telle pluie de flammes que Camaret paraissait s'enlever dans la gloire d'une apothéose entre la transparence azurée de la mer et l'infinie profondeur bleue du ciel. Toutes les têtes se découvrirent, tous les fronts s'inclinèrent, mais les yeux brillèrent de rayons plus curieux au moment où la croix, entre les deux files d'enfants, déboucha sur le quai, en face du fortin de Vauban, et étincela dans la pleine clarté. Un nom courait de bouche en bouche. Le Reboutou, le Reboutou. Beaucoup, qui ne le connaissaient pas, avaient l'avidité plus âpre de le voir, et même ceux qui avaient eu affaire à lui sentaient un désir de le revoir, dans l'étonnement de sa présence à cette fête chrétienne, lui, l'homme de la lande, l'homme du cap de la chèvre, le sorcier. Impassible, la face tranquille, le front haut sous les tombantes boucles grises de ses longs cheveux, toujours vêtu de son habituel costume qui tranchait sur les vêtements de ses voisins, Nédélec Goualen s'avançait derrière le curé de Camaret, en tête du groupe compact formant, à la fin du cortège, le gros de la procession. Les réflexions s'échangeaient. « Une figure de brave homme, après tout, qu'il a ce Reboutou. »« Moi, j'en ai toujours bien pensé, » assura Bozanec, du pas de sa porte d'où il regardait le défilé. Le vieux Le Fur répondit. « Il a des idées des anciens du vieux temps, comme il a encore les hardes, et c'était gens de bonne humeur, comme de bons conseils, autant dire. » Une exclamation bruyante de Louise Pénéguez fit retourner toutes les faces. « Faillique et reine ensemble !» Vers le centre de la procession, juste devant le curé, se dressait la statue de la Sainte Vierge, portée par 4 femmes mariées, revêtues de leurs plus beaux costumes, les 2 premières en blanc. Unies dans la même ferveur, le visage rayonnant de la même joie, le regard plein du même bonheur, c'était reine Balanec et Geneviève Goualen qui, depuis quelques jours seulement, s'appelait reine Morvan et Geneviève le Marec. De la place où ils se trouvaient, aux côtés de Nédélec Goualen avec Balanec, Corentin Garec et quelques autres, les 2 amis, Denis et Hervé, pouvaient admirer leur jeune femme et les couvrir d'un égal regard de profond amour. Mais le triomphateur, comme au jour de la cérémonie de la croix de mission, c'était l'abbé Pierre Kerbiriou. L'hymne jaillissait de son gosier avec un éclat de triomphe, célébrant la bonne dame du roc. Notre-Dame de Rocamadour, dirige et soutiens dans l'orage la frêle barque du pêcheur, ramène-la jusqu'au rivage, à travers les flots en fureur. Pour lui, c'était la victoire complète, sa mission évangélique terminée. Tout en rendant justice au dévouement, au courage, aux bonnes intentions, à toutes les vertus qu'il avait pu découvrir et reconnaître dans Nédélec Goualen, il ne pouvait oublier en effet que pour tous, c'était le Reboutou, que pour les superstitieux, comme Lagadec, Trémor, c'était le sorcier, le camarade des corbeaux centenaires, l'ami des pierres de la lande. Il sentait une véritable gloire d'apôtre à le tenir là, devant tous, avec lui. Et il apercevait, à quelques pas, la femme de Denis le Marec, sa nièce maintenant, sa Véléda d'autrefois, la fille du sorcier, courbée sous la statuette de la mère de Dieu. Là aussi, il retrouvait l'éclatant symbole peint dans l'église, personnifié dans la statue, la Vierge posant son pied sur la tête du serpent, le triomphe de Marie sur le démon. C'est ainsi que, en ce jour de grande solennité religieuse, se trouvaient réunies les deux plus grandes antinomies de l'âme bretonne, la religion catholique et la légende païenne, avec ces deux hommes, le curé et le reboutou. Ennemis, ils se nuisaient mutuellement, se faisaient tort, car, dans les dangers de la mer, dans les souffrances de la vie, le pêcheur armoricain, tout en invoquant volontiers Dieu, la Vierge, les saints, gardait une certaine attirance craintive pour les invisibles de la lande, pour celui qui, à ses yeux, les représentait, les rendait propices. Ce reboutou, si puissant par ses herbes, par ses paroles, et qui, parfois, leur inspirait plus de confiance que le prêtre ou le médecin. Amis, ils devaient se soutenir, s'aider. Dans le fond, ils n'étaient pas si séparés. La base de leur puissance à tous deux sur ces humbles de la mélancolique terre de Bretagne étant la même, cette fleur des brumes, le mystère,